j'ai une conviction forte qui me porte, c'est celle que nos singularités sont des forces, on peut faire les choses à notre façon, et c'est souvent là, quand on s'autorise à le faire, qu'on est le mieux dans notre posture. D'ailleurs, si vous avez lu mon livre Enseigner selon son profil, c'est ce dont je vous parle dès les premières pages, avec Virginie, qui a réalisé à la fin d'une séance de coaching qu'elle passait son temps à essayer de rentrer dans les chaussons des autres alors qu'elle porte des baskets à paillettes. Seulement, être soi au travail, ce n'est pas toujours confortable, c'est parfois un défi, même quand on a compris que porter des chaussures qui ne sont pas à notre taille, ça fait mal aux pieds. C'est ce dont je parle avec mon invité dans cet épisode 198 du podcast. Je suis Émilie Lefattan, ex-prof des écoles devenue coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à vivre des changements professionnels, à retrouver de la sérénité et du kiff au quotidien. Alors si tu as envie de prendre un temps de recul sur ta vie de prof ou ta façon de travailler, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti.
On apprend à enseigner, on apprend des méthodes, on apprend les outils, la gestion de classe, les programmes, mais être soi en enseignant, eh bien ça, personne ne nous le montre. Et pourtant, c'est parfois compliqué de ne pas être soi, tout comme c'est compliqué d'être soi. Et en n'étant pas soi, ben, on peut se perdre, on s'épuise à faire semblant. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas forcément à trouver l'équilibre entre quand est-ce qu'on est soi, quand est-ce qu'on accepte de prendre un peu sur soi. Et la semaine dernière, sur Instagram, une petite note m'a arrêtée dans mon fil. Il était écrit « Si je sors du cadre, je dérange. Si j'essaie de rentrer dans le moule, j'étouffe. » Et cette note, c'est celle de Marie Germain, qui est enseignante au Québec, près de Montréal, et que je suis depuis quelques années discrètement sur Instagram. Et cette fois-ci, je venais de diffuser l'épisode 195 sur le sentiment de décalage. Alors, je lui ai envoyé parce que ça me semblait résonner. Et de fil en aiguille, on s'est dit, eh bien, si on en parlait ensemble dans le podcast. Et donc, me voici avec vous, avec Marie, pour en discuter. Bonjour Marie.
Bonjour! J'espère que les auditeurs vont bien comprendre mon accent québécois. Ça me fait très plaisir d'être avec toi, Émilie, aujourd'hui pour cet enregistrement.
Oui, moi aussi, ça me fait super plaisir. Il n'y a aucune raison qu'on ne te comprenne pas. En tout cas, je te comprends très bien. Et donc, l'idée là aujourd'hui, c'est qu'ensemble, on puisse discuter de ce sujet qui te parle et qui me parle, être soi au travail. Tu me disais en échangeant que ce que tu montres sur les réseaux, c'est vraiment toi. Et est-ce que c'est la même personne qui entre en classe le matin?
Ah, tout à fait. Pour moi, ça fait partie, je pense que ça fait partie de qui je... Ben, pas je pense, je le confirme. Ça fait partie de qui je suis. Vous allez me voir dans la rue, vous allez me voir en classe, vous allez me voir dans mes entreprises, et parce que j'ai plusieurs entreprises aussi, et je suis la même personne. Je ne suis pas un personnage d'une place à une autre. Ce que je suis en classe, c'est la même qu'on voit dans la vie tous les jours. Mon mari pourrait le confirmer. Mais aussi, là.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus justement dans quel contexte tu enseignes pour oui. Les personnes qui nous suivent?
Oui, en fait, ça fait environ 22 ans que j'enseigne maintenant. Et la plupart de ma carrière, je l'ai passée en 5e, 6e année. Donc, ce qui correspond, si je ne me trompe pas, à CM1, CM2, ça se peut-tu? Oui. Ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des élèves de 10 à 12 ans que j'ai habituellement, là, qui se retrouvent à être à la fin du primaire pour se rendre. Nous, on a le secondaire. Et après, c'est le cégep, le collégial et l'université là, pour notre système québécois. Et donc, j'ai enseigné longtemps. Je continue et j'adore enseigner en 5e, 6e année. Pourtant, quand j'ai commencé, je ne pensais pas être une prof du 3e cycle de 5e, 6e année. J'avais ma, ma formation et mon expérience étaient plus auprès des enfants plus jeunes. Puis quand il a été question d'avoir un poste, ben j'ai pris la première chose qui m'était apparue disponible, et c'est là que j'ai commencé à enseigner en 5e, 6e année. J'avais vraiment la trouille, puisque mon parcours scolaire à moi, j'ai été un petit peu tannante, donc un peu, comment je pourrais dire, à faire des problèmes là, auprès de mes profs quand j'étais au secondaire. Alors, ma mère m'a toujours dit, tu sèmes des carottes, tu vas récolter des carottes. Donc, je savais que c'est parce que j'avais niaisé au secondaire, je risquais de me faire niaiser. Mais finalement, ça n'a pas été ça. Ça a été un franc succès. Et ça l'est encore aujourd'hui. Là, j'ai des gens qui demandent, j'ai des listes d'attente pour être dans ma classe. Puis pourtant, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des parents qui écrivent à la direction pour que les enfants viennent dans ma classe. Puis je trouve que c'est une belle reconnaissance de ma part. Bon, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, puis même quand j'étais en stage, pour moi, c'était important d'aller chercher le meilleur de chaque personne qui était autour de moi. Même si on apprenait des nouveautés lors de l'université, les nouvelles formations, les nouvelles recherches qui étaient en cours, bien, pour moi, c'est important de voir aussi qu'est-ce qui avait été fait avant, parce qu'il y a des bonnes choses qui étaient faites avant, et puis d'aller chercher tout ça et d'aller glaner qu'est-ce qui collait à qui j'étais, à qui je suis comme personne. Puis je me suis beaucoup intéressée à qu'est-ce que tout le monde faisait autour pour aller chercher, glaner, dans le fond, ce qui me correspondait. Puis je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui me remet énormément en question, donc de fil en aiguille, je me suis, créer l'identité de prof que je suis présentement, bien, créer qui collait à qui j'étais, là, voilà. Ouais. Fait que c'est ce qui fait que je suis là où je suis présentement et je vais toujours chercher un peu plus dans les formations pour essayer de rendre ma classe la plus, comment je pourrais dire, égale à tous, que le plus d'enfants possible puissent se sentir adéquats, qu'ils puissent sentir qu'ils vont avoir du succès, peu importe où tu te situes au niveau de tes apprentissages.
Quel adjectif tu pourrais donner pour dire quelle personne, quelle enseignante tu es?
Ben, je suis une enseignante créative, toujours à la recherche de solutions pour aider les enfants. C'est justement, c'est ce côté créatif-là qui sort du traditionnel. On nous a enseigné qu'il faut faire les pages dans le cahier, puis après ça, on fait nos exercices, nos examens, mais il y a plus que ça. La lecture, elle est très, très, très présente. Mes élèves, je les appelle mes petites crêpes parce qu'ils se couchent un peu partout dans la classe et ils lisent. L'écriture aussi, je n'impose pas de texte. Je me rappelle, une enseignante avait écrit une lettre complète à ma direction. Je l'ai su plus tard. Elle avait écrit comme quoi j'étais une mauvaise enseignante parce que de toute façon, dans ma classe, les élèves jouaient. Mm. Ben oui, les élèves jouent. Mais en jouant, on apprend. Donc, je fais autrement. On va travailler aussi à partir des projets des enfants. Donc, c'est de partir, d'écouter les enfants. C'est tout ça, la créativité que je trouve qui te présente.
Tu pars vraiment des besoins de l'écoute, de ce que tu ressens chez les enfants. On sent que tu as besoin qu'ils se ressentent du plaisir à être là, que ça ait du sens. Et finalement, c'est des intuitions que tu as eues qui font que ça sort des pratiques traditionnelles. Mais qu'on voit de plus en plus, c'est parce que beaucoup d'enseignants ont ces intuitions-là et que les recherches vont dans ce sens. Et qu'on voit que ça fonctionne, mais c'est vrai qu'au moment où il y a changement, où il y a friction avec ce qui se passe, c'est difficile, en fait, parfois pour les autres, d'accepter cette différence. Et comment ça se traduit dans ta pratique au quotidien? Ça veut dire quoi pour toi, être toi dans ta classe?
Ben, être moi dans ma classe, c'est premièrement, c'est de... Si je retourne en arrière, même à mon enfance, ça peut paraître étrange, mais pour moi, je trouve que c'est tellement important. En tant que jeune jeune enfant qui était très timide, qui parlait presque pas, même à mes parents, je parlais pas quand j'avais des choses difficiles. Toujours peur de déranger ou... Ben, en fait, je me suis rendu compte que... ben, j'ai travaillé beaucoup sur moi. Il m'est arrivé des situations dans ma vie que j'ai pas eu le choix de travailler sur qui j'étais, puis défoncer mes peurs, mes murs. Ce qui fait que, ben, on dirait que je comprends les enfants. Je comprends leurs difficultés. Donc, en travaillant sur moi beaucoup, ça m'a permis d'être encore plus accessible pour les enfants. Puis, une des choses que les enfants me disent souvent, c'est « Merci, Madame Marie, de nous écouter. » Et ça, c'est tellement important d'écouter les enfants malgré leur explosion, leur façon d'être qui peut parfois être un petit peu perturbateur, mais d'écouter quand même pour voir mais qu'est-ce qui se cache derrière ça. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup, moi, de coquilles autour de ma personne et ces coquilles-là ont été craquées parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps de m'écouter. Et tout ça pour dire que, bon, le fait que je suis aussi entrepreneur, là, j'ai des entreprises en dehors de l'école et aussi je m'enregistre tout prochainement avec En Première Classe, qui est mon dada là, en enseignement, là, avec mon compte Instagram. Ben, en fait, j'ai la chance d'avoir des formations de développement personnel pour travailler qui je suis en tant que personne. Ce qui fait que je deviens une meilleure entrepreneur, je deviens une meilleure enseignante, je deviens une meilleure mère, une meilleure femme, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est, je pense que c'est un tout. Et bon, j'ai l'opportunité de vivre ça au quotidien, ce qui me permet d'être ben, la meilleure enseignante que je voudrais, en fait. Je me suis toujours dit ça aussi. Est-ce que tu voudrais être l'enseignante? Est-ce que tu voudrais, pas être l'enseignante, mais plutôt, est-ce que tu voudrais... que l'enseignante que je suis t'enseigne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, c'est-à-dire donc, que tu essayes d'être l'enseignante que tu aurais voulu pour toi-même.
Voilà, voilà.
Okay. Tu disais, donc, ça fait 22 ans que tu enseignes, que là, aujourd'hui, tu arrives à un niveau de pratique où tu arrives à assumer, en fait, de faire à ta façon. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ça a toujours été facile de le faire à ta façon, de faire comme toi t'as envie et de mettre un peu de toi dans ta pratique?
Non, tout à fait. Ben, en fait, les premières années d'enseignement, j'avais pas cette assurance que j'ai aujourd'hui, bien entendu. Puis c'est parce que j'ai rencontré des personnes qui sortaient de... ben qui étaient eux-mêmes, en fait, puis qui sortaient un petit peu de l'ordinaire parce que je suis quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire là, dans ma façon d'être. Je sais qu'en France, il y a quelques classes, quelques écoles aussi qui fonctionnent en classe flexible. Ben ici, c'est une pratique qui est de plus en plus courante et j'ai été une des premières classes au Québec, là... bon, pas la première, mais une des premières classes au Québec à avoir une classe flexible. J'ai un bain dans ma classe, une baignoire dans laquelle les enfants peuvent lire. J'ai une bibliothèque qui est aussi grosse que celle de la bibliothèque d'école de romans et d'albums jeunesse. Bon, j'ai un divan dans ma classe, un fauteuil, des tables au lieu de pupitres. Donc, puis on fonctionne beaucoup aussi pour préparer au secondaire. J'ai pensé ma classe et c'était pas juste pour que ça soit mignon, mais vraiment pour que ça puisse être le plus accessible pour les enfants qui, parce que j'enseigne dans des milieux défavorisés, puissent se sentir comme à la maison. Parce que plusieurs enfants ne sentent pas, quand ils sont chez eux, qu'ils sont vraiment dans leur... Ben, en fait, ils n'ont pas le sentiment d'être à la maison. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça que j'ai réfléchi. Et bien entendu, ça n'a pas toujours été facile. Des incompréhensions auprès de mes collègues, bon, de la jalousie, de la mise de côté aussi à plusieurs reprises. Bon, des lettres d'intimidation aussi que j'ai reçues par des enseignants qui n'étaient pas d'accord avec... comment j'étais. Ça a été difficile, mais j'ai pris les moyens pour justement ne pas perdre la flamme qui est à l'intérieur de moi, la passion d'enseigner. Alors, ici au Québec, on a l'opportunité de changer d'école en fin d'année scolaire. Là, on a comme un certain moment où est-ce qu'on a le droit de demander de changer d'école. Alors, j'ai eu l'opportunité de le faire et j'ai changé de milieu, là, pour pouvoir être capable de souffler un peu. Donc, ça a été une des situations. Là, il y en a eu quelques-unes comme ça. Puis, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et en parlant aussi, le fait d'avoir justement des podcasts comme le tien, Émilie, ou encore des gens sur les réseaux sociaux qui brillent, ça m'a vraiment aidé à voir, OK, non, je ne suis pas un extraterrestre, là. Je suis une personne à part entière. Les idées que j'ai, elles sont bonnes, elles donnent des résultats. Je me suis rebâtie, là, si on peut dire comme ça, avec des gens qui ont été, tu sais, une communauté de gens qui réfléchissaient, qui brillaient, puis qui m'ont ramené, tu sais, justement à la lumière, là, si on peut dire ça comme ça.
Ouais, ce qu'il y a, c'est que quand t'as commencé à faire les choses à ta façon, tu rencontrais des, enfin, ça allait à contre-courant. C'est le fait de quand on est soi, parfois être soi, c'est être conforme, mais parfois être soi, c'est aller à contre-courant. Et à ces moments-là, ben déjà, soit on doute, j'imagine peut-être que tu t'es comparée à d'autres, que voilà. Et en plus, là, tu as carrément eu des hostilités de la part de tes collègues. Tu disais donc des gens qui t'ont carrément écrit des courriers d'intimidation. Ça va loin.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça demande du courage d'être soi. Ça demande du courage alors que, on voit comment la société va, puis faut se poser des questions. Et ça, c'est quelque chose, comme je vous disais, je le faisais pour ma classe, mais je suis une personne comme ça qui se pose des questions puis qui se dit, attendez, là, est-ce que tout ce qui nous est présenté est bon? Puis de réfléchir et pas d'embarquer dans tout ce qui se fait présentement, de prendre un pas de recul puis de réfléchir. Puis de réfléchir à, oui, mais moi, qu'est-ce que moi, c'est important pour moi? Puis d'aller dans ce sens-là. C'est pas parce que tout nous est présenté, même en enseignement, que ça veut dire que tout est bon. Il faut prendre un pas de recul et réfléchir, tu sais.
Ouais. Oui, il y a cette idée. En fait, être soi, finalement, il y a à la fois oser remettre en question ce qui se fait déjà, il y a ça, le fait de remettre en question, mais il y a aussi le fait d'oser faire ensuite autre chose, autrement. Et puis, il y a la partie d'oser le porter, l'assumer vis-à-vis de quand on va à contre-courant, des personnes qui ne sont pas habituées, parce que quand on change, quand on fait autrement que les autres, ça vient chatouiller aussi chez les autres de se dire fais pas comme moi. C'est-à-dire que autant toi, tu te compares que eux se comparent à ce que tu fais. Et que du coup, ça renvoie une image parfois aux autres qui est inconfortable, quoi.
C'est ça. Puis je pense que ce qui est important, c'est surtout en enseignement, c'est de s'ouvrir aux autres puis d'essayer de comprendre. Il y a une activité que je fais beaucoup avec mes élèves, c'est des débats, mais des débats qui sont bienveillants. Où on va prendre, par exemple, un album jeunesse, puis on va essayer de... on va se poser une question, et là, je les oblige à prendre un parti qui n'est pas nécessairement le leur. Donc, même s'ils sont pour, parfois, ils vont devoir être contre pour essayer de comprendre la vision de l'autre. Puis après ça, on va débattre, mais le débat se fait de façon bienveillante parce que, il y a toute une démarche à suivre là, dans cette façon de faire-là. Et pour se rendre compte que, dans le fond, on peut se parler, on peut avoir on peut ne pas tous être d'accord, mais vivre ensemble puis accepter l'autre qui est différent de nous. Puis pour moi, c'est tellement important. Du fait que je donne aussi des ateliers, conférences, des fois, c'est sûr que j'apporte ma couleur, j'apporte les choses et ça peut faire réfléchir. Mais ça ne veut pas dire que parce que je fais réfléchir que ça veut dire que tout le monde doit faire comme moi. Mais c'est de dire, OK, qu'est-ce que la personne me dit, que ce soit moi qui donne un atelier conférence ou que j'écoute un podcast d'Émilie, mes trucs de prof, ou encore que je vais lire un livre ou peu importe, qu'est-ce que je retire de ça qui vient se greffer à qui je suis et que je peux que ça va me permettre de briller encore plus. Et c'est là que ça devient intéressant de discuter avec d'autres enseignants, de parler. J'ai beaucoup d'abonnés qui viennent d'Europe parce que j'aime pouvoir entendre et voir ce qui se fait, puis de dire, comment est-ce que je pourrais appliquer ça à qui je suis? Et je pense que c'est cette ouverture-là aussi qui fait une richesse dans être soi.
Oui, parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a aussi... Je pense que pour s'accepter différemment et oser faire différemment et aller à contre-courant, c'est aussi important de se situer non pas dans la norme où tout le monde se ressemble, mais de pouvoir aller voir justement toute la diversité de ce qui existe pour pouvoir s'autoriser à enrichir cette diversité avec quelque chose d'encore différent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui, tout à fait.
De se dire que c'est parce qu'on voit qu'il y a plein de façons différentes de faire qu'on arrive aussi à accepter de faire encore autrement et de faire à sa façon parce que finalement, même dans d'autres contextes, même avec d'autres fonctionnements, ben, ça va aussi, quoi.
Oui, puis une chose que je vois aussi qui a été un défi pour moi, c'est de ne pas juger. C'est parce que la différence entre le jugement et de voir « Ah, ça, j'aime pas ça », mais c'est pas parce que j'aime pas ça que ça veut dire que c'est moins bon que ce que moi, j'aime. Mm. Puis, juste pour donner un exemple qui n'a pas rapport avec l'enseignement, mais quand même, ça m'a permis de réfléchir aussi sur ben, comment j'accepte les autres en tant qu'enseignant, en tant que façon de faire pédagogiquement qui est différente que moi. Je suis dans un vernissage qui se fait chez mon frère et ma belle-sœur. Ils ont une grande, grande maison. C'était la première fois que je visitais leur nouvelle maison. Je rentre dans la maison et je regarde leur maison et ce n'est pas du tout le goût. Ça fait pas partie de mes goûts, là. La maison, le style et tout. Puis eux, ils étaient heureux là, de leur nouvelle maison. Puis moi, j'étais comme, je ne comprends pas pourquoi ils aimaient ça. J'ai vraiment eu ce moment de réflexion-là parce que je me disais, mais ils ont le droit d'aimer ça. Je peux pas juger de leur goût, de leur intérêt. Alors, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu un déclic parce qu'en fait, je me donnais pas le droit d'aimer des choses qui étaient différentes des autres totalement. Je m'assumais pas totalement. Et à ce moment-là, j'ai fait « OK, j'ai le droit d'aimer ma maison qui est faite avec des objets vintage qui sortent de l'ordinaire. Moi, c'est comme ça. J'aime ça. Puis ça veut pas dire que c'est parce que j'aime les choses comme ça que ce que les autres aiment, c'est moins bon. » Donc, ça m'a permis là, de... Bon, je pourrais dire qu'à ce moment-là, l'ouverture s'est faite là, à l'intérieur de moi.
Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, peut-être place du jugement dans l'acceptation de soi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'idée de ne pas se sentir jugé par les autres, mais du coup, ça va de pair avec ne pas juger ce que font les autres et accepter que tout puisse coexister. Mmh. Et tant qu'on ne prend pas conscience de ça et qu'on n'a pas ça demande, mais comme tu l'as fait là pour cette maison, ça demande un temps de métacognition, de prendre conscience de, OK, qu'est-ce que je suis en train de penser là ? Je suis en train de juger et ce n'est pas forcément naturel. C'est sûr que quand on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas dans notre façon de faire, le premier élan, c'est d'avoir un jugement, une pensée, un avis. Et ça demande un effort, en fait, de pouvoir se dire, OK, en fait, ça a le droit d'exister aussi. Et donc, quand on arrive à faire ça, peut-être qu'on arrive mieux à le faire aussi pour soi. Quand on arrive à le faire pour les autres, à se dire, OK, ça ne me plaît pas et ça a le droit d'exister. Et donc, peut-être que ce que je fais, ça ne plaît pas aux autres, mais ça a le droit d'exister aussi.
Puis en fait, je me suis rendu compte que le jugement que je pouvais porter sur les autres, c'était un jugement que j'avais face à moi-même. Mm. Puis, il y a eu comme vraiment une prise de conscience. Mais comme je pense que je te l'avais dit quand on a eu notre discussion avant je trouve que c'est quelque chose. J'ai eu l'opportunité ce week-end d'aller manger avec une de mes profs d'université que j'ai gardé contact. Donc, c'est vraiment spécial. Puis, on parlait de ça qu'en fait, il manque dans la formation, du moins au Québec, des cours à même le programme universitaire de développement personnel. Parce que, on travaille avec des humains. Et des humains qui sont en croissance, mais si nous-mêmes, on n'a pas grandi en tant que personne, qu'on est resté stagné à certains endroits dans notre vie, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas enseigner ce qu'on n'est pas. Et pour moi, c'est tellement important de travailler sur moi au quotidien. Donc, il va se passer un conflit avec mon mari. Qu'est-ce que je peux travailler là-dessus? Qu'est-ce que je peux améliorer? Puis ça va avoir des répercussions sur ma classe, même si je ne vais pas parler de ce qui se passe avec mon mari et à mes élèves, là, c'est pas ça. Mais oui. Dans le sens que s'il y a moindrement des endroits où est-ce que c'est bloqué au niveau de mon cœur, ça va transparaître dans mon enseignement. Puis ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important.
Ouais. On a vraiment besoin d'espace, en fait, de prise de recul. Tu parles de développement personnel, mais même qui va influer sur notre développement professionnel, parce que ce qu'on est, ce qu'on ressent, le contexte émotionnel dans lequel on est, ce qu'on comprend de nos modes de fonctionnement, ça va pouvoir nous aider dans notre pratique, mais dans notre relation aussi aux collègues, dans notre relation aux parents d'élèves. Ça nous permet de, parfois, comme là, tu vois, ce qu'on est en train de faire, on est en train de comparer ta visite d'une maison à ton regard sur la pratique professionnelle, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on travaille par ailleurs ou les situations qu'on vit à certains endroits ou les façons de fonctionner, ce qu'on fait évoluer dans notre communication, tu donnais l'exemple du couple, mais ça permet de faire évoluer le reste. Et je pense que tu as raison, on aurait besoin, de façon adossée en tout cas à la formation, que ce soit la formation initiale ou même la formation continue, d'espace pour pouvoir prendre du recul sur ça, de ne pas être seulement scotché à la pratique, à la pédagogie, mais de pouvoir faire un pas de recul pour pouvoir se dire « Ok, et moi là dans tout ça, et mes émotions ?» Et comment je me situe, comment ça me fait grandir. Tu disais comment je grandis, ce que j'apprends pour moi. Et voilà, c'est adopter un état d'esprit de développement pour pouvoir se servir de chaque événement qu'on rencontre, professionnellement ou personnellement, pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de soi, quoi.
Oui, tout à fait. Puis j'ai rencontré aussi la semaine dernière un ancien animateur télévision qui parlait, il donnait une conférence, puis une des choses qu'il disait, c'est qu'on peut avoir une mentalité de croissance ou une mentalité fixe. Une mentalité de croissance, c'est justement quand je fais des erreurs, quand je me trompe, au lieu de me taper dessus puis rester là, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux en retirer, puis où est-ce que ça peut m'amener plus loin pour que je fleurisse encore. Je trouve ça tellement important, tout ce volet-là, parce que c'est un de mes amis qui est aussi en milieu de l'éducation qui me disait, dans le fond, ce que les jeunes retiennent, il me fait prendre conscience de ça, ce que les jeunes retiennent de l'école, c'est pas les règles de grammaire, mais c'est la relation qu'ils ont eue avec l'enseignant. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de, justement, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir autrement et dire, est-ce qu'on peut travailler sur la relation, sur soi, et ça va nous permettre d'enseigner et d'amener les apprentissages à un autre niveau. Et voilà.
Oui. Je ne peux qu'abonder dans ton sens, parce que c'est tout à fait ce qui me porte aussi, que ce soit dans les coachings, dans mon livre, qui est typiquement sur ce sujet-là, enseigner un peu dans son profil pour mieux se connaître. Et c'est ça, cette relation à soi, en fait, qui permet aussi de prendre soin de soi et de durer, parce que tu parlais d'humains, on est face à des humains quand on enseigne, donc prendre soin de soi, c'est aussi une manière de rester en bon état intérieur pour pouvoir continuer de prendre soin des élèves et de soigner cette relation.
Mm-hmm. Puis si on a des enfants, même en tant que parents, ce qu'on fait avec les élèves, puis si on travaille sur soi, veux pas, on va être encore des meilleurs parents, parce qu'on va être... les enfants, malgré que des fois, c'est le chaos à la maison. Il faut prendre le temps que, wow, qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que j'ai des choses à regarder pour moi qui va faire en sorte que mon enfant va mieux écouter? Et c'est ça.
Ouais. Et puis, parfois, on rejoue les mêmes choses. J'avais une coachée il n'y a pas longtemps qui me prenait conscience de quelque chose qui l'a bloqué dans la gestion de sa classe. Et en prenant conscience pendant le coaching, elle s'est dit, je fais la même chose avec ma fille. Et du coup, dans sa posture, en tout cas, il y avait quelque chose de similaire qui faisait... Alors, moi, je l'accompagnais sur sa pratique de classe, mais j'imagine que du coup, ce qui a bougé au niveau de sa gestion de classe, ça l'a peut-être fait bouger aussi dans sa parentalité.
Puis, il y a une chose que je fais en classe qui peut peut-être aider certains auditeurs. Je fais le conseil... Moi, j'appelle ça le conseil de famille. Donc, une fois... ça dépend du besoin de ma classe, mais en général, je le fais aux 2 semaines. Une fois aux 2 semaines, on prend le temps de rechercher des solutions, de féliciter et de parler de choses. Parce que, en classe, on a quand même un horaire très... très chargé. Alors, je prends quand même le temps, une fois aux 2 semaines... des fois, c'est plus, là, ça dépend de comment je sens mon groupe. J'ai comme trois pots dans lesquels ils peuvent écrire quand ils essayent de régler leur conflit par eux-mêmes. Mais si ça ne fonctionne pas et qu'ils ont essayé plusieurs fois, ils vont écrire un petit papier qu'ils mettent dans la boîte. Et là, ben, je prends le temps avec la classe de pouvoir régler les conflits qu'ils ont pu vivre puis essayer de trouver des solutions pour améliorer la chose. Et ça, c'est magique dans la cohésion du groupe, dans le sentiment d'appartenance, la chimie qu'on peut créer auprès des enfants. Et les gens qui viennent pour nous visiter, que ce soit des auteurs, des personnes qui viennent visiter la classe, ils sont vraiment estomaqués de voir comment le groupe se tient serré ensemble, ouais. Puis qu'ils font attention l'un l'autre. Donc, moi, je trouve que c'est tellement important. Donc, c'est là qu'ils me disent souvent, « Madame Marie, merci de nous écouter. » Parce que je prends le temps. Je m'arrête pour ça.
Je faisais pareil dans ma classe et c'est vrai que c'est assez vertueux, ces moments. Et par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on le fait dans les classes, mais on ne le fait pas toujours dans les équipes pour adultes. Pourtant, c'est aussi des effets de groupe.
C'est vrai. Ça a aidé plusieurs de mes situations, je pense.
Ben oui, de prendre le temps de réguler, de chercher des solutions ensemble, de se féliciter les uns les autres, de se remercier et de voir comment on peut encore mieux fonctionner ensemble. Mm-hmm.
Mais c'est ça, c'est là qu'on demande aux enfants de faire quelque chose, mais on ne le fait pas nous-mêmes. J'ai vraiment l'opportunité, le privilège, un grand privilège cette année de travailler dans une équipe où il y a une belle cohésion. Je pense que je suis dans l'école qui rejoignait mes valeurs. Et ça, c'est vraiment important aussi de se retrouver à une place où on va être bien. Si on n'est pas bien, ben je ne sais pas comment ça fonctionne en Europe, mais nous ici, on peut changer. Ouais. On a des moyens pour.
C'est ça. Ben c'est important ce que tu dis. Tu vois, sur le fait d'être soi en classe, il y avait cette idée. Donc, ce n'est pas toujours facile. Ça demande d'arrêter de juger les autres et de s'auto-juger et d'accepter la diversité. Et là, ce que tu évoques, c'est de se dire, ben, en fait, il y a des endroits peut-être qui sont plus favorables à qui nous sommes, à mettre en place, à accepter, à vivre comme on est notre pratique, et que peut-être des fois plutôt que de s'auto-flageller, de se questionner ou d'être en souffrance, parce que tu disais si je ne suis pas comme je suis, j'étouffe. Donc d'étouffer dans sa pratique, des fois bouger, changer d'endroit, essayer ailleurs, essayer d'autres fonctions, d'autres missions, ça peut permettre de nous réconcilier avec se dire, OK, c'était pas moi le problème, peut-être que ailleurs, je peux me sentir plus alignée avec ce qui se fait.
Oui, tout à fait. Puis j'ai vécu une autre situation où est-ce que, c'était du harcèlement psychologique là, auprès de quelqu'un de plus haut placé que moi. Puis malgré, je voyais qu'il y avait une certaine distance entre nous, puis j'essayais vraiment de dire, mais on est des adultes, on peut se parler. Puis j'ai essayé par plusieurs reprises, de différentes façons, pour essayer de faire comprendre à la personne qui j'étais, mais aussi pour la comprendre elle. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que j'ai décidé de bouger, parce que justement, ça fonctionnait plus, malgré toutes mes tentatives. Donc, à un moment donné, comme tu dis, Émilie, il faut arrêter de s'auto-flageller et faire ce qu'on a besoin pour... Du moins, si c'est quelque chose d'important, moi, c'est important pour moi de continuer d'enseigner. Ça fait partie de moi, là, j'en vis. Donc, je voulais pas mourir à ça. Ben, je change. Je trouve des moyens pour changer, là.
Oui. Donc, Parfois, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, quand on peut le faire, c'est bien de pouvoir se l'autoriser. Je voulais te demander, aujourd'hui, tu réussis en tout cas à mettre plus de toi dans ta pratique, à assumer d'aller parfois à contre-courant ou d'oser faire des choses différentes de ce qui peut se faire, et t'es dans un contexte qui le permet et qui l'autorise. Quel est ton challenge ou ton défi actuel par rapport à ça pour continuer d'être toi en classe? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose que tu travailles?
Quand on est avec des collègues qui sont un peu plus, qui sont différents de soi, puis que ça pourrait, des fois, ça peut aider. Je pense que ce que j'ai à apporter est riche, c'est de continuer d'influencer. Puis même si la personne ou les personnes ne sont pas rendues, c'est pas de baisser les bras, mais c'est de continuer d'être là pour les gens qui sont autour de moi. Parce que, bon, à cause de ce que j'ai vécu, j'ai eu tendance à m'isoler pour me protéger. Parce que c'était trop difficile, là, toutes les différentes situations qui se sont passées puis qui m'ont mis à l'écart. Fait que je me suis, par le fait même, auto-protégée parce que c'était trop souffrant. Ben, en fait, là, c'est de dire, OK, je suis dans un milieu, c'est sécuritaire. Je peux être qui je suis, mais je peux aussi apporter ce que j'ai. Puis même si les gens ne sont pas rendus, c'est de rester là puis d'accepter les autres, ça va, mais c'est de dire, ben, je vais rester là malgré que les gens sont pas nécessairement prêts. Puis c'est de toujours de rester là, en fait, de pas m'isoler à cause de cette tendance-là, justement à cause de ce que j'ai vécu. Donc, c'est de rester présente, puis de dire, ben, je vais rester là, puis si la personne est prête à, ben, je vais être là. Puis si la personne n'est pas prête, je vais quand même rester là. Donc, okay. C'est ça.
Ouais, l'enjeu, là, pour toi, maintenant que tu arrives à... que tu as accepté l'idée que c'est OK d'être différent, c'est OK de faire autrement, c'est OK de ne pas faire comme tout le monde, mais malgré tout, l'enjeu, c'est de rester, de garder cette place et de ne pas t'effacer, de ne pas te mettre en retrait et de continuer... de continuer d'occuper, de faire comme tu as envie. Ça continue quand même peut-être d'avoir un impact si tu ne fais pas attention, quoi.
Oui, puis je dirais, il y a cette phrase qu'on plusieurs peut-être connaissent, nul n'est prophète dans son pays. Bon, quand on est dans sa propre école, ça peut être quelque chose. Bon, je sais que je brille en dehors de mon école. Je donne des ateliers de conférences, je brille sur les réseaux sociaux. Donc, c'est déjà, il y a plusieurs personnes qui me parlent, que j'ai changé les choses. C'est Internet aussi, avec plusieurs trucs que j'offre gratuitement, mais quand c'est dans sa propre école, pour moi, c'est un défi de plus, mais j'ai mon directeur qui est la personne qui s'occupe de l'école et je le connais très bien parce qu'on a déjà été formateurs ensemble il y a quelques années et il me donne vraiment beaucoup de place dans des formations parce qu'on a à l'école, on a aussi de la formation continue en équipe école. Et il m'a donné quelques places justement pour que je puisse parler, être présente, puis influencer les gens dans mon milieu. Ça m'a demandé tout un défi parce que c'est ma première année que je suis dans cette école-là. Puis avec ce que j'avais vécu et tout, ça a été un grand défi là, justement de sortir tout de suite, tu sais, de ne pas avoir de délai et d'aller tout de suite, tu sais, briller. Ça m'a vraiment aidée justement pour ne pas m'isoler.
Ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot briller. Pour toi, ça veut dire quoi, briller, là?
Ben, briller, c'est être soi-même. C'est de voir que ça apporte quelque chose aux autres. Parce que quand tu brilles, une lumière, tu ne la mets pas dans un sous-sol. Tu la mets à quelque part pour que les gens voient. Puis je pense qu'on a chacun une petite lumière qui brille de couleurs différentes, de luminosité différente. Des fois, c'est plus flash, des fois, c'est plus calme. Mais chaque lumière apporte quelque chose pour quelqu'un qui a peut-être le même type de lumière ou pour qui ça va inspirer parce que sa lumière, à elle, est différente. Donc, pour moi, c'est ça, briller, c'est d'être soi-même et de justement inspirer les gens. Pas juste influencer, mais inspirer les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes.
Donc, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que quand on ose être soi-même et qu'on accepte de l'être, finalement, on brille dans le sens où on permet aussi, on donne des autorisations aux autres d'être eux aussi comme ils sont, à leur façon. Et que l'idée, c'est pas forcément d'influencer pour être comme toi, c'est d'influencer pour être soi.
Exactement. Puis on le remarque, moi c'est quelque chose que je regarde beaucoup, et sans jugement par exemple, mais c'est quelque chose que je remarque beaucoup sur les réseaux sociaux. Les personnes qui brillent, donc qui sont eux-mêmes et qui donnent la permission aux autres d'être eux, ils ont vraiment beaucoup de monnaie. Pas tous. Mais je parle plus en éducation en tant que telle. Là. Je parle pas nécessairement là, des influenceurs qui parlent des produits qu'ils achètent ou qu'ils reçoivent. Puis qui je parle pas de ça, là, mais je parle vraiment en éducation en tant que telle. Les gens qui percent puis qui brillent sur les réseaux sociaux, du moins c'est ce que je remarque au Québec, ce sont des personnes qui se permettent d'être eux et qui ont le coup que les gens deviennent eux-mêmes aussi. Donc, puis je pense que c'est ça la raison d'être de la vie. C'est pas juste d'être là pour soi, mais c'est d'être là pour être en échange avec les gens qui sont autour de nous. Et je pense que la vie est tellement plus belle comme ça.
J'adore cette expression, cette façon de voir la vie et voir les choses.
Alors, sinon, ma grand-mère disait, le pire, c'est de l'accepter. Accepter qui on est, accepter d'être en relation avec les autres puis d'être blessé, parce que d'être en relation, ça veut dire qu'on va encore être blessé. Parce que c'est ça, être avec des humains, c'est vivre avec son cœur, c'est d'accepter qu'on va peut-être être blessé encore. Mais c'est pas parce que je vais être blessé que je vais rester là. Et je vais apprendre mentalité de croissance. Donc, je vais apprendre, je vais grandir, je vais briller encore. Donc... Oui, je peux en dire long. Hein.
Oui, mais on peut rester sur ça et se dire en tout cas que, voilà, être soi, c'est briller pour donner aux autres, voilà, l'autorisation d'être soi. Et quand on est soi, eh ben, on se sent mieux, on n'étouffe pas tout dans sa pratique, comme tu le disais. Et ça demande en tout cas, ce que je retiens aussi, c'est que même quand on l'a compris, même quand on s'autorise à l'être, ça demande de continuer d'être vigilant à ça et de... Voilà, c'est pas facile, en fait, d'être soi.
Non. Non, c'est ça. Ça demande énormément de courage.
Merci beaucoup, Marie, d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce que tu peux préciser comment on peut te suivre et te retrouver?
Ben oui, tout à fait. C'est mon groupe Instagram. Ben mon groupe, c'est pas mon groupe, mon compte Instagram, c'est En Première Classe. Ça s'écrit ENREECLASSE, tout collé. Puis quand on va sur mon compte Instagram, je l'ai aussi sur Facebook, mais quand on va sur mon compte Instagram, j'ai aussi tous mes liens là, pour mon site Internet de prof. Il y a beaucoup de projets, d'activités, tout est gratuit. Donc, les gens peuvent télécharger, lire, apprendre de cette façon-là. Puis sans problème, vous pouvez me poser des questions en message privé. Je réponds assez rapidement. J'aime recevoir du courrier depuis que j'étais petite. Donc, quand j'ai eu un message, j'ai eu un message! Je deviens toute excitée à l'intérieur, là, très, très heureuse de pouvoir échanger avec des gens. Donc, voilà.
Super. Eh bien, je mettrai les liens en complément de l'épisode. Et merci beaucoup, Marie.
Ben, merci à toi.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce qu'on vient d'explorer ensemble vous parle, si vous vous êtes reconnu quelque part, sachez que c'est exactement par là que je travaille avec les profs que j'accompagne. Tous les liens pour la newsletter, le coaching, les livres sont dans la description si vous voulez aller plus loin. Et vous trouverez notamment les renseignements pour le coaching collectif Kiffe ta vie de prof qui revient bientôt, le coaching collectif spécial KPI et les coachings pour le CAFIPEMF. Et si vous avez besoin d'aide pour planifier vos vacances, pour vous assurer des vacances sereines, le programme 100% en autonomie Kiffe tes vacances est toujours disponible. Voilà, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.